Alors, je suis Jean-François Carémel, je suis prof d'histoire géo dans un collège du Pas-de-Calais et secrétaire du SNES FSU pour l'Académie Lille. Alors, la mobilisation d'aujourd'hui, c'est... alors, bien sûr, on est en crise sanitaire, mais pour le second degré, pour les collègues qui sont dans les collèges et lycées, le problème, il est bien plus large que la crise sanitaire, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous retire des postes dans l'éducation nationale, dans le second degré. Donc on est dans une situation où on n'a plus de remplaçants, où on a des élèves qui sont absents, présents, et les profs, c'est la même chose. Et pendant ce temps-là, nos effectifs augmentent et on n'est plus en capacité de préparer les élèves aux examens, de dispenser les savoirs. Et là, on a vraiment une forme d'exaspération qui éclate aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. La crise sanitaire, c'est l'étincelle. Mais vraiment, ça fait des années qu'on souffre. Alors bien sûr, on souffre comme la société dans son ensemble, on subit les conséquences du Covid. Bon, la crise sanitaire, c'est un révélateur des maux du système éducatif qui est géré par ce gouvernement et en particulier par Jean-Michel Blanquer. Il y a un tas de choses qui se passent, qui sont couvertes par le Covid et qu'on subit. Il y a la question des effectifs. Il y a les réformes qui sont menées, par exemple, au lycée et sur le bac. On a également des modes de gestion des personnels qui se rapprochent de plus en plus de ce qui se passe dans le pire des entreprises privées, où on essaie de nous faire travailler par objectif, aux chiffres. Voilà. Et donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que ça remonte. Et là, les collègues, ils sont vraiment exaspérés, ils sont à bout et ils sont extrêmement fatigués.
Ça se ressent, cette exaspération, en termes de mobilisation aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est une mobilisation qui est réussie, comme on n'en a pas eu depuis le 5 décembre 2019 sur les retraites. Dans notre secteur, on est sur des chiffres en termes de grévistes qui sont au niveau du 5 décembre 2019. Et donc c'est vraiment quelque chose de vachement bien, parce qu'on est très content de ça. Alors sur les manifs, c'est plus compliqué, parce qu'on est quand même en Covid, et les déplacements qu'on pouvait organiser en bus, par exemple, pour aller sur les manifestations comme celle-ci, eh bien on les fait pas, parce que les collègues, ils sont pas prêts à se déplacer, s'ils peuvent éviter, sur les transports en commun, etc. Donc on a quand même une belle manif, alors qu'on est dans un contexte très, très particulier, avec Omicron qui est là. Donc nous chefs de grévistes, on est dans le second degré pour l'Académie, on est au-delà des 60% de grévistes, donc c'est une grève majoritaire. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, ça arrive sur des gros mouvements. Et là, pour un mouvement simplement centré sur l'éducation, ce sont des chiffres extrêmement, extrêmement intéressants.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, cristallise une bonne partie des attaques. Au-delà des réformes, il y a aussi un aspect un peu... Dans la doctrine, en fait, qu'il développe, sa vision de l'éducation qui est problématique.
Je pense que Jean-Michel Blanquer, il incarne bien le néolibéralisme dans l'éducation. Il le fait très bien, et il y a une dose de mépris en plus. Donc ce qui fait que les collègues voient les conséquences des choix budgétaires, mais qui ne sont pas seulement ceux de Blanquer, hein, ce sont des choix gouvernementaux, c'est des orientations qu'on retrouve dans d'autres secteurs. Simplement, Blanquer, lui... Il est maintenant complètement détesté des collègues, et on n'en attend plus rien, en fait. On est dans une situation où on a... Alors bien sûr, on le met en cause, mais derrière, quand même, on sait très bien que les choix qui sont faits, ce sont contre ces choix-là qu'on se bat. On sait très bien que si démissionné demain, on aurait un autre ou une autre ministre, et que les orientations lourdes, elles sont fixées dans le cadre du gouvernement, de l'exécutif. On ne se fait pas d'illusions. Maintenant, s'ils s'en allaient, on serait content, hein. Mais c'est pas la revendication principale. Parce qu'on sait que c'est pas ça qui va améliorer les conditions de travail des collègues et les conditions d'apprentissage des élèves dans les classes au quotidien. C'est pas ça qui va changer. Il faut d'autres choix politiques, d'autres orientations.
Les revendications principales, quelles sont-elles ?
Alors, d'abord, c'est l'arrêt des suppressions de postes. Parce que là, on travaille dans des classes, en lycée, c'est autour de 35. En collège, maintenant, on est sur les 30. On n'est plus en capacité de s'occuper des élèves qui sont en difficulté. Et c'est la première chose. Il y a ça. Et puis, les collègues, là, dans le mouvement d'aujourd'hui, s'ils sont en colère, c'est aussi parce qu'ils sentent bien qu'il y a un mépris et qu'on refuse toute reconnaissance de leur engagement au quotidien, justement, aux côtés des élèves, et y compris aucune reconnaissance sur le plan salarial. C'est-à-dire qu'on a, il faut le dire, hein, Ça fait des années que les salaires de tous les fonctionnaires sont gelés, donc il y a des choix politiques, hein, et qu'on paye. On a des collègues qui maintenant démarrent à 1,2 SMIC en ayant Bac plus 5 et en ayant passé les concours qui sont sélectifs. Et on a une désaffection du métier en raison de ces questions-là. Et donc il faut que ça change, donc ça nécessitera forcément au niveau budgétaire d'autres choix pour que les collègues se sentent reconnus, qu'on ne leur fasse pas porter le chapeau des problèmes qui se posent. Par exemple, il n'y a plus de remplaçants. Il n'y a plus de remplaçants parce qu'on supprime des postes. Et on nous sort des solutions du type, hein, vous avez dû voir dans la manif, hein, y a des pancartes, on va recruter des jeunes retraités. Voilà. Et donc ça, c'est très très mal vécu par les collègues, puisque ça veut dire qu'en gros, le métier peut être fait par n'importe qui sans apprendre le métier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement humiliant. Donc il y a une dimension moyen, puis il y a une dimension mépris du métier, absence de reconnaissance, et même il y a un déni de l'aspect professionnel. Ça, pour des collègues enseignants notamment, c'est quelque chose, et pas seulement, c'est quelque chose qui est extrêmement... ils le perçoivent extrêmement mal. C'est un problème de fond, ça.
Quelles seront les suites données à cette mobilisation-ci ?
Alors là, il y a une intersyndicale nationale qui va se réunir, d'après ce que j'ai compris, à 18h ce soir. Mais on a déjà annoncé que, pour la FSU en tout cas, que le mouvement était réussi. Et donc, les suites vont dépendre des discussions qu'on aura en intersyndicale, où il a déjà été décidé, quand même, avant l'intersyndicale, de s'adresser à Castex. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus au ministre de l'Éducation nationale, on s'adresse au Premier ministre. Et on va poser des conditions, des demandes, des revendications. Et ensuite, on verra comment les collègues perçoivent les suites. Hein. On va se réunir là, dans les prochains jours. Voilà. Sachant qu'il y a une perspective qui est ouverte depuis un moment, qui est la journée interprofessionnelle du 27 janvier, dans une quinzaine de jours maintenant. Et donc, la question de savoir comment on va articuler ce qu'on a fait aujourd'hui, qui n'était pas prévu il y a une semaine, hein. C'est quelque chose qui s'est décidé très très vite. C'est extrêmement rare qu'en fait on décide d'un mouvement comme ça, vu l'urgence, et un mouvement ensuite qui est réussi. Donc, effectivement, pour nous, la problématique, c'est de savoir comment on arrive à continuer dans cet élan-là pour nous amener au 27.
Je suis enseignante sur Roubaix depuis 7 ans. Voilà. Je me suis battue pour avoir le concours parce que c'est un métier que j'aime faire. J'ai eu du mal à avoir le concours. Mais je regrette pas. J'aime mon métier, mais dans des conditions comme ça, c'est pas possible. C'est pas tenable. Moi je suis brigade REP+, donc normalement je remplace les enseignants en formation. En REP+, et du coup on a arrêté les formations pour pouvoir faire des remplacements classiques depuis la rentrée de novembre. Donc, parce qu'il n'y a plus du tout de remplaçants, il n'y en avait déjà pas dès la rentrée, ils avaient zéro remplaçant à Roubaix. Que dans n'importe quelle circonscription de Roubaix, il n'y avait plus de remplaçants dès la rentrée de septembre. Donc on a commencé à manifester entre guillemets depuis la rentrée de novembre. Le vendredi, on allait aux inspections de Roubaix pour réclamer des postes, etc. Les syndicats ont rencontré Monsieur Bessol pour faire part des revendications. Des contractuels sont arrivés, mais des contractuels, c'est pas la solution. Il aurait fallu ouvrir la liste complémentaire. Je pense que les étudiants à l'INSP n'attendent que ça, quoi, de pouvoir être sur le terrain, mais bon. Voilà, ça a été refusé.
Ça paraît être une bonne solution, ça, de remplacer des professeurs par des étudiants ?
C'est des étudiants qui ont pour vocation de devenir professeurs. Donc ça peut faire partie de leur formation d'être sur le terrain. Je pense qu'ils demandent que ça. Donc, clairement, c'est qu'un pis-aller. Il faut ouvrir des postes en concours. Il faut recruter plus en concours. Là, c'est pas suffisant.
J'imagine que c'est une revendication qui est portée assez généralement. C'est quoi la réponse dans ces cas-là ?
La réponse ? Monsieur Bessel a dit que c'était pas lui qui décidait.
Monsieur Bessel, c'est le...
C'est l'inspecteur académique. Donc c'est au ministère qu'il faut donner des dotations pour pouvoir recruter plus.
Alors là, vous avez écrit des chiffres, est-ce que vous pouvez me les détailler? C'est quoi la situation?
Alors c'est sur Roubaix, je ne vois pas combien, le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, le nombre d'écoles et zéro remplaçant. Voilà.
C'est une situation qui est propre à Roubaix ou est-ce que vous avez connaissance de, d'autres communes, d'autres secteurs qui vivent la même situation?
Non, je pense que c'est pas propre à Roubaix, c'est parce que moi je suis enseignante à Roubaix. Mais sur Tourcoing, par exemple, on a des collègues sur Tourcoing, la situation est quasiment la même. Enfin, c'est pas propre à Roubaix, non. C'est un peu partout comme ça.
Et aujourd'hui, pour vous, c'est une journée spéciale de mobilisation ou alors vous étiez déjà mobilisé depuis un moment?
On est mobilisé depuis un moment. Aujourd'hui, c'est le point d'orgue, on va dire. Et après, nous, on continue de notre côté. Sur Roubaix, on va lancer un Roubaix-Paris en vélo à partir de mardi. Donc le départ, c'est mardi midi. Et après, arriver vendredi à Paris, devant le ministère. En vélo.
Vous pensez que c'est une situation qui est propre à la crise sanitaire et à la gestion du Covid dans les établissements scolaires ou ça aurait pu être la même chose sans?
Je pense que c'était déjà tendu avant et que la crise sanitaire a renforcé le problème. Il y avait déjà des problèmes de remplaçants avant le Covid, mais je pense que les inspections arrivaient encore à gérer. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a des congés maternité qui ne sont pas remplacés. Enfin, des enseignants absents une semaine, il n'y a pas de remplaçant. Donc, c'est dramatique pour les enfants. Enfin, les élèves, ils ont un nombre de jours sans enseignant qui est intolérable. C'est pas possible. Donc, je pense que la crise a renforcé le problème. Il était déjà là avant.
C'est quoi le sentiment chez les enseignants et enseignantes? C'est le ras-le-bol, c'est la résignation, c'est la fatigue?
C'est la fatigue. Personnellement, moi, je suis épuisée physiquement, moralement, alors qu'on a repris qu'il y a 2 semaines, hein, mais c'est la fatigue surtout tout. La résignation aussi un petit peu, parce que est-ce que ça va bouger? On espère, mais personnellement, j'y crois pas trop. Mais ouais, voilà.
Éducation n'est pas une marchandise. L'école n'est pas une entreprise. L'éducation n'est pas une marchandise. L'école n'est pas une entreprise.
Voilà, il demande ce qui me mobilise.
Bon, déjà le protocole sanitaire. En fait, le protocole sanitaire, c'est pas vraiment la raison qui nous anime, parce que je pense que derrière le protocole sanitaire, ça révèle une sorte de mépris, quoi. En fait, ça révèle comment on est traité, je trouve. Le fait que ce soit édicté la veille à 17h, un dimanche avant la rentrée, que ça change tout le temps, etc. Bon, c'est pénible, quoi, on n'a pas été traité comme ça. On va enfin peut-être avoir des masques chirurgicaux, alors que ça discute de peut-être mettre des masques plus protecteurs, quoi. Seulement mi-janvier, alors que les autres fonctionnaires et d'autres fonctionnaires en ont déjà eu avant, quoi. Donc on passe vraiment après tout le monde, quoi. Et puis, en fait... Le protocole sanitaire tel qu'il est mis en place, nous, on voudrait bien ouvrir les écoles. Ça nous irait de faire en sorte que ça reste ouvert et que ça circule le moins possible. Mais en fait, on n'a clairement pas les moyens. En fait, on se rend compte que si on veut vraiment que les personnes d'éducation fassent exactement ce qu'ils nous demandent de faire à fond, et ils le font, hein, les gens, moi, je suis au lycée à Cambrai, les gens ils travaillent bien. Ils sont dévoués, quoi. Ils font en sorte... Que ça roule, que les personnes contaminées ou cas contact viennent pas, mais en fait ça leur prend tout leur temps, donc ils ont le temps de rien faire d'autre. Et puis voilà, ça révèle aussi toute une forme d'hypocrisie, quoi. Le fait de faire appel à des retraités pour remplacer les profs absents ou des contractuels qui travaillent énormément, qui sont très mal payés alors qu'ils ont supprimé 8000 postes en 5 ans, c'est n'importe quoi. On est le seul pays, je crois, de l'OCDE ou l'un des seuls à ne pas avoir investi en éducation pendant la crise Covid. Non, puis on fait mal nos travaux à cause de ça. On est très très déçus de comment on travaille à cause de ce contexte, quoi. Pour les élèves, ce serait peut-être même limite, peut-être plus simple pour eux d'avoir les cours entièrement distanciels. Parce que nous, si on veut faire des cours en présentiel, mais que la moitié des élèves sont absents pour X raisons à cause des protocoles sanitaires, on va pas être payé plus pour faire le cours à l'écrit derrière. On pourrait envoyer le cours à l'écrit, par exemple, mais c'est pas possible. Donc ces élèves, il va falloir qu'ils se débrouillent pour rattraper. Mais ça va être compliqué pour eux, je pense. Et nous, on n'a vraiment pas le temps non plus de s'occuper de ça, surtout quand il y a les épreuves qui arrivent bientôt. On a des programmes qui sont très lourds. Avec la réforme du bac, depuis quelques années, on nous demande de faire des épreuves anticipées en mois de mars. Donc on doit vraiment accélérer. Donc les élèves qui sont absents à ce moment-là, parce que le virus circule dans les écoles, même malgré le protocole. Donc les élèves, du coup, ils viennent, mais ils sont absents. Pendant ce temps-là, le cours continue alors qu'ils sont absents. Donc ils doivent rattraper un cours pour un examen qui arrive bientôt. Et c'est d'autant plus stressant que nous, on doit se dépêcher et faire vite parce que le programme, parce que les épreuves arrivent bientôt et qu'on n'a pas le temps de faire le nombre de chapitres demandés à temps. Et donc ça, c'est une pression qu'on a en plus. Et puis derrière, on n'a même pas vraiment réfléchi à l'organisation des épreuves. Ce sera les premières épreuves anticipées qu'on mettra en place, puisque la première année, il y a eu des mouvements de grève, ça a été mis partiellement en place, puis il y a eu le Covid. L'an dernier, ça a été annulé. Et cette année, ça va avoir lieu, mais en fait, je pense que personne n'est vraiment prêt à mettre ça en place, quoi. Et puis, ça se trouve, on aura la moitié des élèves absents pendant ces épreuves. Alors, comment on fait pour les rattraper derrière? En fait, ça... Le fait de devoir gérer les élèves absents du fait de ce protocole, ça nous rajoute du travail, ça rajoute de la complexité, et on s'en sort vraiment plus, quoi. Derrière, je n'ai pas le temps, moi, vraiment, de préparer mes cours, quoi. Je suis tellement occupé à tout ça, ça me prend tellement la tête de faire ça que je sais même pas si mes cours sont bons, mais je me pose même plus la question, en fait. Simplement, le fait de donner cours, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, on n'est pas satisfait de ce qu'on fait à la fin.
Qu'est-ce qui serait pour toi des mesures significatives ?
Bah, pour moi, je pense que déjà, il faudrait revenir en arrière par rapport à cette réforme du lycée d'il y a 3 ans. Ça crée de la concurrence entre les enseignants, pour les matières. Les élèves peuvent choisir en première 3 spécialités, ils en abandonnent une en terminale. Donc, ça nous met tous en concurrence. Donc, déjà, ça crée un climat vraiment détestable. Donc, il faudrait revenir en arrière avec ce système, revenir à un bac national, avec des épreuves qui ont lieu en juin, pour nous laisser le temps de vraiment préparer nos élèves, supprimer tout ce qui a été mis en place de manière un peu perverse, qui consiste à faire de plus en plus de contrôle continu, puisque ça fait aussi que les élèves sont constamment évalués. Il faudrait revenir qui avait ses défauts, le bac d'avant, mais celui-ci est pire, quoi. Je pense que parce que le bac d'avant avait des défauts, c'était intéressant de vouloir le changer, mais pas en ce qui a été fait là, quoi. Nous, ça nous met dans un climat d'évaluer nos élèves constamment. Quasiment toutes les notes se mettent à compter pour le bac maintenant. Et donc, les élèves en souffrent. Et nous, on ne peut pas être prêts pour faire les évaluations à temps, quoi. Qui sont de plus en plus tôt. C'est les lycées eux-mêmes qui doivent organiser les épreuves maintenant. Ça rajoute du travail en plus. Il n'y a pas de moyens en plus, il y en a même moins. Et nous, on a des programmes qui sont beaucoup trop lourds pour faire ça. Ou après, je pense qu'on pourrait réussir à faire les programmes qui demandent à temps. Mais alors, ce serait vraiment extrêmement léger ce qu'on ferait. Il faut évacuer les débats, les discussions entre élèves, on n'a plus le temps de faire ça. Il faut aller au plus efficace. Donc la liberté d'enseignement, elle est mise à mal aussi. Parce que du coup, on a la liberté de prendre les documents qu'on veut. Moi, je suis prof de sciences économiques et sociales. Je peux prendre les documents que je veux. On traite de questions de société, de sujets qui sont vraiment passionnants, qui leur plaisent. Et très souvent, je leur dis, on n'a pas le temps. On peut pas discuter de ça, on n'a plus le temps. Et même moi, dans mes documents, je coupe, j'enlève des choses parce qu'il faut être efficace.
Est-ce que tu sais s'il y a un dialogue qui existe ? Il y a des instances qui se mettent en place, oui, pour essayer de faire transmettre en fait ce ras-le-bol du corps enseignant vers le ministère ?
Bah évidemment, il y a les syndicats. Les syndicats, ils relaient notre parole dans des instances représentatives où ils discutent avec le ministère. Alors moi, je suis jeune prof, je n'ai pas le détail de tout ça. Mais bien sûr qu'il y a soi-disant des instances pour discuter. Blanquer reçoit régulièrement des syndicats. Mais on a le sentiment de ne pas être écouté, en fait. D'ailleurs, c'est pas un hasard, à mon avis, si aujourd'hui tous les syndicats appellent à la grève, y compris les syndicats d'inspecteurs, qui sont pas spécialement, je pense, des gens qui appellent facilement à manifester, quoi. Et moi, je sais que la première année où j'ai été enseignant, on avait boycotté les épreuves anticipées du baccalauréat en première, parce que ça nous allait pas. C'était déjà trop tôt. On n'était pas prêts, il avait voulu mettre en place à marche forcée sa réforme sans laisser le temps de nous adapter. Et en fait, au niveau de mon lycée, ce qui a été mis en place, c'est que le rectorat de Normandie, où j'étais, ils ont envoyé du personnel du rectorat pour remplacer les profs grévistes. Donc ils ont envoyé des jaunes, quoi. Donc ils cherchent pas à discuter, en fait. Ils court-circuitent. Voilà, ils nous voient comme des râleurs, vraiment. Blanquer, je pense qu'il a une politique, il a une manière de parler des enseignants qui montre qu'il nous méprise fondamentalement. Quand il dit on fait pas grève contre un virus, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Puis c'est du mépris. C'est du mépris, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire qu'en fait, on a des prétextes de grève pour rien et qu'en fait on se plaint juste du virus. Mais c'est pas le virus qui nous emmerde, c'est comment ils répondent à ça, quoi. Donc lui fondamentalement cherche pas à nous écouter. Et il fait diversion, il passe son temps à parler de sujets, les problèmes liés à la laïcité, sa grande obsession c'est quand même des rhétoriques d'extrême droite autour du wokisme. Ça n'est pas un problème. C'est pas un problème, ça. Donc, ils nous écoutent pas et ils créent des problèmes qui n'en sont pas. Donc, vraiment, on a l'impression d'une déconnexion, quoi. Et moi, c'est comme je suis prof depuis 2 ans, 3 ans, j'ai pas connu d'autres ministres. Mais ce que j'entends de mes collègues, c'est que c'est la première fois qu'on a autant ce sentiment de quelqu'un qui est déconnecté de la base, quoi. Cherche pas à nous écouter, je pense que vraiment Blanquer, il a cet a priori qu'on est des chieurs. Et d'ailleurs, après le premier confinement, là où les profs ont été assez exemplaires, je pense qu'on a quand même continué à faire cours à distance. Moi, je suis assez jeune, mais j'ai des collègues âgés qui ont eu du mal et qui ont fait des efforts quand même. Blanquer, il nous a remerciés, évidemment, logique, encore heureux. Mais derrière, il a alimenté cette espèce de rhétorique qu'il y a eu pendant quelques jours sur les 5% de profs, soi-disant, qui n'auraient pas assuré de cours à distance, quoi. Voilà, il met le doigt sur, soi-disant, des profs qui ne travaillent pas. Il cherche vraiment la petite bête, quoi. C'est pénible, quoi. Avec des déclarations comme ça, il alimente vraiment ce sentiment de ne pas nous écouter. Mais je pense que c'est pas qu'un sentiment, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vraiment vrai. La preuve, il y a unanimité contre lui. Voilà.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je suis Julien, je suis prof de sciences économiques et sociales en lycée, à Cambrai.